France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Connaissez-vous Rosalind Franklin, Jocelyn Bell ou encore Liz Meitner? Non. Et pourtant, ces femmes scientifiques ont fait des découvertes essentielles dans l'ordre. L'identification de la structure en double hélice de l'ADN, le premier pulsar et le principe de la fission nucléaire, rien que ça. Mais vous ne connaissez pas leur nom tout simplement parce que ce sont les hommes qui travaillaient avec elles, qui furent reconnus et qui obtinrent les prix les plus prestigieux pour ces découvertes, dont pour certains le Graal, le prix Nobel. Ce déni ou cette minimisation des contributions des femmes scientifiques à la recherche porte un nom, c'est l'effet Mathilda. On va en parler aujourd'hui à travers l'histoire passionnante de deux femmes qui ont marqué l'histoire des sciences, des femmes qui font partie des héroïnes d'un livre non moins passionnant écrit par un médecin, romancier, essayiste. Gilles Pialou, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous dirigez le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Vous êtes beaucoup intervenu lors de la crise du Covid, bien avant, dès les années 80, quand le sida est apparu. Je le disais, vous êtes également romancier et je recommande vivement la lecture de vos deux romans, Comme un léger tremblement et Un don presque parfait, qui sont tous les deux magnifiques. Et vous êtes également essayiste, puisque vous publiez chez Perrin Admiration, 7 héros de la médecine. Parmi eux, Marie Curie et Marthe Gauthier. On va en parler tout de suite, mais vous vouliez revenir un instant sur cette personne que je citais, Liz Meitner.
Oui, parce que j'en parle, il y a plusieurs façons, il y a les 7 personnages, puis il y a un abécédaire, et puis il y a des notes de bas de page qui vont, et il y a une note en bas de page sur Liz Meitner, c'est hallucinant parce que c'est la caricature du sujet qu'on va traiter, c'est la Marie Curie, on l'a appelée la Marie Curie autrichienne, elle a été complètement spoilée, le Nobel de chimie, c'est Otto Hahn qui va l'avoir en 44. Alors qu'elle a travaillé dans un univers où il n'y avait pas de toilettes pour femmes, elle allait dans une maison à côté. C'est absolument incroyable. Et en plus, ce prix Nobel que Anne va avoir à sa place, il va l'avoir dans un contexte nazi et tout ça. Donc c'est vraiment une histoire qui se répète. Et donc il y a beaucoup de personnages et c'est un fil. La place des femmes en science, c'est un fil conducteur de ce livre.
Cet effet Mathilda, c'est un effet effectivement qui a été prégnant pendant une bonne partie du début du siècle.
Oui, alors est-ce qu'il est complètement fini? Je ne crois pas. On y reviendra. On a fait des sondages un peu à Sorbonne Université pour voir quelle est la place des femmes dans la hiérarchie et c'est assez édifiant. J'y reviendrai. Et puis c'est un vieux concept. Hein. En fait, avant il y avait l'effet Mathieu, donc qui était tiré d'un verset de la Bible, qui disait qu'en fait c'était ceux qui avaient déjà des découvertes, des choses qui s'appropriaient les découvertes. Et là, ça a été genré, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on l'a adapté aux femmes. Et le texte fondateur de l'effet Mathilda, donc Mathilda Jocelyn Gage qui l'a inventé, elle a écrit un texte magnifique qui s'appelle que la femme est une inventrice, enfin est une découvreuse comme les autres.
Alors justement, on va parler de deux femmes victimes ou pas de l'effet Mathilda, mais juste, je voudrais évoquer juste trois portraits que vous faites, parce que vraiment, c'est passionnant, votre livre. Il y a l'histoire de Zenon Drowocki, qui est un neurologue polonais déporté à Auschwitz, inventeur de l'électroencéphalogramme, qui pratiquait une méthode artisanale d'électrochoc auprès des détenus des camps, pour les sauver en fait de troubles psychiatriques qui les promettaient évidemment à une mort certaine en chambre à gaz. Il y a l'histoire de Madeleine Bress, qui est la première femme à devenir docteur en médecine en France en 1875. Et il y a celle, je cite encore, de James Miranda Stuart Barry, chirurgien militaire britannique du 19e, qui réussit une des premières césariennes au monde. Et en fait, il était une femme. Voilà, il faut vraiment lire ce livre parce qu'il y a plein de portraits tout à fait étonnants. On va parler donc de ces deux femmes et de l'effet Mathilda. Donc Marie Curie, qui s'appelait Maria Salomea Sklodowska. Je suis pas pardonnable de ne pas pouvoir le dire.
C'est important de l'appeler Curie Sklodowska parce que c'est ce qui est sur sa tombe.
Voilà.
Et puis parce que, quand même, on doit beaucoup à la Pologne. Et juste pour l'anecdote, si pour les gens, les auditeurs qui nous écoutent, si vous allez la voir au Panthéon, vous verrez que sa tombe est surtout honorée par des Polonais.
Alors, elle est née donc effectivement en Pologne en 1867. Elle a dû quitter son pays qui était sous domination russe pour pouvoir faire des études. Elle fait quoi comme études? Parce qu'elle n'est pas médecin.
Non, elle n'est pas un médecin, alors c'est ça, effectivement, c'est la seule connue et non médecin, donc c'est un peu à contre-courant des autres personnages. Elle étudie la physique dans ce qui est maintenant la Sorbonne, après elle va étudier les mathématiques, elle va avoir une double licence, et sa thèse, sa fameuse thèse de l'année 1903 sur la radioactivité précisément, comme vous l'avez dit, c'est une thèse de sciences physiques, et en fait elle est physique, chimiste et mathématicienne. Ce qui fait quand même un gros corpus.
Elle va vivre avec Pierre Curie, qui est un physicien reconnu. Ils vont découvrir donc le radium et le polonium. Et cette découverte donc de la radioactivité, évidemment, va connaître un retentissement immense, qui va être couronné du prix Nobel. Mais elle a bien failli ne pas l'avoir, le prix Nobel.
Alors, elle a bien failli ne pas l'avoir, très, très clairement. Et c'est une histoire assez incroyable, parce que, en fait, le comité Nobel, pour faire court, a des représentants dans les pays, et le représentant en France, c'est Henri Poincaré, c'est le cousin du président du même nom, qui est éminent, bien sûr, puissant, mathématicien, tout à fait misogyne, même ses descendants expliqueront qu'il a essayé de contourner Marie Curie, parce que la première liste qu'il va donner au comité français du Nobel, ils sont une vingtaine, vingt hommes, il y a que Becquerel, Monsieur Becquerel et Monsieur Curie. Et c'est Monsieur Curie qui va écrire, effectivement, je raconte la lettre, en 1903, qui va dire, attendez, là, c'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments, et c'est à elle qu'on doit cette découverte-là. Et donc, il va être aidé dans sa démarche par d'autres sociétaires suédois notamment qui vont permettre que de réparer ce début d'injustice. Et vous avez raison de dire qu'effectivement elle a échappé de peu à l'effet Mathilda, ce qui aurait été quand même assez hallucinant, puis elle va avoir un deuxième prix Nobel cette fois-ci en 1911.
Absolument, elle sera d'ailleurs la seule femme à avoir deux prix Nobel.
La seule femme, et alors ce qui est hallucinant aussi, mais bon, ça a été écrit dans toutes les biographies, c'est que sa fille va avoir un prix Nobel, son gendre va avoir un prix Nobel, c'est-à-dire que dans une famille, vous voyez, vous imaginez les repas de Noël, ils sont cinq prix Nobel dans les réunions de famille, quoi.
Et il y a une phrase, je sais, qui lui est attribuée, je sais pas si elle est vraie, mais je trouve qu'elle est très jolie. On lui avait demandé, ça fait quoi d'être mariée à un prix Nobel? Et elle avait répondu, demander à mon mari. Comme quoi, ça peut perdurer.
Voilà, c'est pour ça que l'intérêt du portrait, c'est que, par rapport à une biographie, vous pouvez changer un peu le regard. Et moi, j'ai apporté des éléments qui sont pas forcément ceux que défendent les historiens spécialistes de Marie Curie. Il y a 60 biographies sur Marie Curie, vous voyez, donc je me suis attaqué à quelque chose de difficile. Mais vous avez raison, elle avait probablement ce regard sur sa fonction, parce qu'en plus, elle va élever, quand son mari meurt prématurément d'un accident de la voie publique, sa fille, Ève, a 2 ans, donc elle va élever ses 2 enfants toute seule.
Et il faut bien dire qu'elle va continuer sa recherche, et puis elle va apporter beaucoup à la radiologie pendant la première guerre. Elle va être engagée volontaire.
Alors oui, effectivement, elle va s'engager elle-même volontaire. Alors ça a été les petites Curies dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire ces petites voiturettes qui permettaient avec un instrument de radiologie de repérer les blessures, les balles, les morceaux d'obus, et à faire un travail de fourmi. Alors moi, j'ai trouvé, je sais que Nathalie Pichard-Mico, qui m'a beaucoup aidé et que je remercie dans ce livre, qui est à la fois une docteure en sciences, qui est à la fois directrice du musée Curie et qui connaît extrêmement bien, évidemment, Marie Curie, n'est pas d'accord avec cette interprétation. Moi, je pense qu'il y avait un côté médecin, peut-être pas...
pas clinicien.
Je pense qu'il y avait quelque chose de médecin en elle, même si effectivement il y a surtout cette période de la guerre où elle va là carrément mettre les mains dans le cambouis et assurer et probablement sauver des vies, parce que cette technique de radiologie de dépistage avec sa fille Irène, qui a que 17 ans en ce moment-là, est assez hallucinant. Et il y a eu des livres à écrire juste sur cette période-là.
Et alors évidemment, elle s'est exposée, mais encore plus pendant toutes ses recherches avant sur le radium, le polonium. On connaissait pas la toxicité des rayons à l'époque. Et elle a fini par en mourir de cette exposition.
Alors là, effectivement, j'ai aussi consacré un chapitre à ça, parce que j'ai un regard médical sur son parcours et que, effectivement, c'est assez étonnant. Contrairement à ce qui est souvent écrit, on connaît les effets néfastes des rayonnements du radium. Donc le radium, c'est 1898, on les connaît dès 1900.
C'est ça.
Et le paradoxe, c'est que même Pierre Curie et même Becquerel vont le tester sur eux, sur leur peau. Ils vont tester les brûlures au radium. Donc je pense qu'il y a une espèce d'insouciance. Il y a même des expérimentations entre 1900 et 1901 avec des dermatologues pour commencer un traitement. Et vous parliez tout à l'heure de la guerre mondiale, c'est incroyable, mais j'ai découvert ça en travaillant sur ce sujet. Il y avait, pendant la Première Guerre mondiale, des expérimentations avec l'utilisation du radium à visée thérapeutique. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui avaient perdu du sang, on leur perfusait des dilutions de radium pour essayer d'augmenter les globules, et même pour augmenter la cicatrisation. Vous voyez, on était dans un délire un peu sur la puissance du radium, et ça minimisait évidemment les effets secondaires. Mais dire qu'elle connaissait pas les effets secondaires, non. Probablement qu'elle a pas pris conscience de l'importance.
La gravité.
Et puis, je veux dire, quand elle va faire ses explorations qui vont conduire au polonium et au radium, justement, en 1898, elle va mettre les mains dans des tonnes et des tonnes qu'elle va charrier, qui viennent du fin fond de la Bohème. Hein. C'est incroyable, cette histoire aussi. C'est un livre qui fait voyager. Hein.
Bien sûr. Et alors, c'est juste une question de curiosité, hein, mais on sait que le radium a une demi-vie de 1600 ans. Quand ils ont été enterrés, et Pierre Curie et Marie Curie, et qu'ils reposent maintenant au Panthéon, les cercueils sont dangereux ou pas? Est-ce qu'il y a des émanations de radium?
Je peux dire un petit mot sur le Panthéon, parce qu'on est passé très vite sur le Panthéon. Pourquoi elle est aussi dans ce livre? C'est parce que, oui, d'accord, tout le monde connaît Curie, il y a des lycées, il y a des livres, elle est deuxième ou troisième avec Pasteur dans les nominations des lieux. Mais quand même, sa reconnaissance est tardive. Oui. Hein. Le Panthéon, elle y rentrait 61 ans après sa mort et 92 ans après son Nobel. Je veux pas faire de comparaison, mais c'est parce que c'est pas une compétition, mais Simone Veil, c'est un an, Voltaire, c'est 13 ans, vous voyez. Oui. Donc il y a quand même eu un peu de temps pour la mettre au Panthéon.
Mais c'est la première femme qui a été honorée à reposer au Panthéon pour ses mérites à elle.
Oui, parce qu'il y avait Berthelot. Voilà. Qui est d'ailleurs même pas dans l'appareil de la crypte où vous cherchez quelqu'un, il y a même pas Madame Berthelot. Oui. Et elle était venue uniquement parce que son mari l'a imposé. Et eux, ils sont venus tous les deux de fête.
Et donc, ils sont plombés ou pas les cercueils?
Oui, oui. Alors, l'histoire, c'est qu'en 1906, quand on enterre Pierre Curie, là, c'est indifférence totale, on ne fait pas attention à tout ça. Mais en 1934, déjà, elle aura une enveloppe de 2,5 mm d'épaisseur. Mais c'est un sujet à la fois sensible, parce que probablement que tout est radioactif, mais il y a beaucoup de travaux, alors je ne suis pas spécialiste, il y a beaucoup de travaux. D'abord, il y a une anecdote, c'est que Pierre Curie était plus irradiant que Marie Curie, alors qu'il lui a survécu 26 ans. Alors probablement, je sais pas, il y a une histoire avec l'ostéoporose la femme, etc., qui fait qu'elle aurait moins capté. Mais il y a eu des rapports, notamment de la Société britannique des radiations, qui disent que globalement, c'est très faible les radiations. En dehors du fait qu'il y a le principe de précaution de mettre du plomb dans le cercueil et que c'est à peu près deux fois, trois fois ce qui circule dans la nanosphère en termes de radiation. Donc probablement, mais que ça soit à la BNF où je suis allé plusieurs fois ou que ça soit au musée Curie, c'est vrai que c'est un sujet sensible parce que les gens pensent que tout d'un coup en touchant les cahiers, parce que tout est irradié, les cahiers. Moi j'ai vu le facsimilé du prix de Nobel là en suédois parce que je savais pas que c'était en suédois le facsimilé.
Moi non plus.
Donc j'ai pas tout compris, mais j'ai reconnu quand même le nom.
Bon, en tout cas, c'est clair que c'est grâce à son mari qu'elle a échappé à l'effet Mathilda. Et ça n'est pas le cas de cette deuxième femme dont on va parler, qui est dans votre livre, Marthe Gauthier. Alors, je résume le début de son histoire. Après des études de médecine, elle va à un stage aux États-Unis, puis elle rentre à l'hôpital Trousseau à Paris, dans le service du professeur Raymond Turpin. Cet homme, c'est le premier qui va émettre l'idée que ce qu'on appelait alors le mongolisme était lié à une anomalie des chromosomes de ses enfants. Et durant son stage aux États-Unis, Marthe Gauthier a appris justement comment on pouvait cultiver des cellules humaines. En France, il n'y a aucun laboratoire qui faisait ça à l'époque. Et donc, elle se propose pour valider la théorie de son patron en réalisant des expériences dans une petite pièce de laboratoire qu'elle aménage. Et c'est surréaliste, c'est totalement artisanal.
Ah, c'est totalement artisanal, ce que racontent d'ailleurs ses petits-neveux ou nièces que j'ai pu interroger. C'était vraiment le grand bazar, parce qu'en fait, son patron de l'époque, donc Turpin, lui dit « Ok, vous avez la technique, vous voulez faire, vous faites ». En gros, il lui donne des locaux où il y a quasiment rien, il y a une armoire machin, il y a une technicienne, après il y aura deux techniciennes, des moyens dérisoires, et elle va faire un... Alors, il faut expliquer que pour faire des karyotypes, c'est un petit peu compliqué, il faut...
Les karyotypes, c'est d'aller regarder les chromosomes.
L'analyse des chromosomes au microscope optique. On les photographie, on les découpe. Après, on les classe par deux. Il y en a encore des gens qui font ça.
Et on les compte.
Et on les compte, bien sûr. 46, 46 à l'époque. On sait depuis peu que c'est 46. Et évidemment, 47 avec un peu, le petit truc en plus. Maintenant, c'est le terme pour les trisomies 21. Et en fait, cette technique de culture, elle va le faire avec un coq qu'elle a pris dans sa ferme du 77, qui sera la mascotte de l'hôpital.
Parce qu'il faut du plasma.
Parce qu'il faut le plasma du coq. Les œufs embryonnés, elle va les chercher à Pasteur. Elle adapte les techniques qui ont été faites par d'autres pour faire, sans faire exploser complètement les cellules, mais il y a un moment où il faut faire exploser pour pouvoir libérer les chromosomes et les photographier et les classer. Et c'est indiscutable dans l'histoire que c'est elle qui apporte la technique, que d'ailleurs Debray, donc le père de la pédiatrie, c'est une des raisons pour lesquelles il l'avait envoyé aux États-Unis.
Et alors, ça marche, puisqu'elle met en culture ses premières cellules de patients atteints de mongolisme. Et elle découvre effectivement qu'ils ont un chromosome en trop. Le problème, c'est qu'il lui manque le matériel pour aller photographier cette découverte. Et là, il y a un jeune stagiaire qui s'appelle Jérôme Lejeune qui se propose de l'aider.
Alors bon, ils étaient jeunes tous les deux, mais c'est, oui, il était stagiaire du CNRS. Bon, la vérité, c'est quand même Jérôme Lejeune travaillait sur la trisomie 21 au sens où il avait déjà une consulte, etc. Ce qui est, bon, d'un autre côté, Marthe Gauthier était pédiatre, ça avait un sens aussi. Elle était cardiopédiatre. Hein, moi qui ai perdu une sœur de la trisomie 21, elle n'est pas morte de la trisomie 21, elle est morte de la complication cardiaque associée à la trisomie 21. J'en parle un petit peu dans le livre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas... Parce que après, on a réécrit l'histoire et effectivement, la version de la Fondation Jérôme Lejeune a été contredit par le comité d'éthique de l'INSERM, on y reviendra. Mais ce qui est clair, que au mieux c'est un travail collaboratif, mais le fait que Marthe Gauthier ait été oubliée dans la promotion de cette découverte-là, et elle va se réveiller tardivement, sur sa fin de vie qu'elle va...
Voilà, on va juste l'écouter, parce que c'est vrai que, donc je disais, Jérôme Lejeune se propose de l'aider, et donc, effectivement, il fait des photos de cette découverte.
Il fait les photos du cariotype qu'elle a fait dans la culture cellulaire.
Et donc, c'est là que la découverte va lui échapper, puisque Jérôme Lejeune va se l'attribuer seul. Écoutez ce que disait Marc Gauthier sur France Culture, c'était en 2018 dans la méthode scientifique. Écoutez.
Il va aux États-Unis, il est envoyé par le CNRS puisqu'il est chargé de recherche. On lui paye son voyage pour aller dans un congrès, le congrès de Montréal sur la génétique. Bon, et à ce moment-là, sans m'en parler, il emmène des coupes et il emmène des photos. Et là-bas, à Montréal, il va dire que les Mongoliens, ont 47 chromosomes avec un supplémentaire. Mais il ne me cite pas. Je me dis, bon, maintenant, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as découvert la trisomie 21, mais on le publie sans, en me citant pas bien.
Oui, pas bien, parce qu'en fait, il y a un ordre, quand on fait des publications scientifiques, où on sait en fait qui a découvert, qui est le patron, etc. Et donc, effectivement, dans ces publications, c'est Jérôme Lejeune qui apparaît comme le découvreur. Il va être au relais de cette découverte, récompensé de nombreux prix. Marthe Gauthier continue son métier de cardiopédiatre sans rien dire. Bon, elle publie quand même un article en 2009 où elle relate sa version de l'histoire, mais il se passe rien. Ce qui a un peu déclenché les choses, c'est en 2007, on apprend que l'Église envisage de canoniser le chercheur. Et là, ça commence à poser quelques problèmes.
Je pense que, d'après ce que m'a dit les membres vivants de sa famille, c'est effectivement qu'à ce moment-là que ça pose un souci, parce que il y a spoliation, en tout cas il y a non-partage indiscutable. Je lis juste ce que dit le comité d'éthique de l'INSERM, dont on peut pas imaginer.
2014.
En 2019. Ouais,
2019.
Me semble-t-il.
Ok.
Vu le contexte de l'époque, de la découverte du chromosome surnuméraire, la part de Jérôme Lejeune dans celle-ci a peu de chances d'avoir été prépondérante, sauf à ne pas porter crédit à la formation des personnes, ici Marthe Gauthier, dans l'acquisition d'une expertise, ici la culture cellulaire, a fortiori quand associée à un séjour de France, ici aux USA, et qu'effectivement, après, que la part de Jérôme Lejeune a été très significative dans la mise en valeur de la découverte au plan international. L'histoire n'a pas été sanctionnée par le prix Nobel, parce qu'il y avait tellement d'embrouilles qu'effectivement il n'y a pas eu le prix Nobel. On aurait été intéressé de savoir si ce prix Nobel aurait été partagé en deux ou en trois, parce que finalement l'idée, c'est le professeur Turpin, la technique, c'est Marthe Gauthier, et l'exploitation, la promotion et la mise en musique, je dirais, de cette découverte, c'est évidemment Jérôme Lejeune.
Ah, donc effectivement, ça aurait pu être partagé en trois. Déjà.
Minimum.
Voilà. Alors, en tout cas, Jérôme Lejeune est mort en 1994, Marc Gauthier en avril 2022. Cet effet, Mathilda, comment vous disiez peut-être qu'il perdure encore, mais comment on l'expliquait à l'époque? C'était uniquement le sexisme de l'époque?
Alors, c'est compliqué de penser que l'effet Mathilda, c'est seulement du sexisme. Si on ressort un peu de l'affaire... De l'affaire Marc Gauthier, on va y revenir, mais... J'en parle à Sorbonne Université en 2023. On a fait un sondage en montrant que les femmes, c'est 50% des effectifs de 66% des femmes à Sorbonne Université, et c'est 29% des chefs de service. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un discours caricatural et tout ça.
Non, je vous dis pas
mais,
ça.
Mais mais en 2020, ça a été fait. Il y a eu des études qui ont montré que, par exemple, dans un pays comme le nôtre, les femmes représentent 50% de la filière scientifique, 35% de chercheuses, et c'est 11% des postes académiques. Donc, on peut pas en faire. Alors, évidemment, c'est pas que le machisme. C'est aussi, et ça, ça a été très bien étudié par un groupe de travail à Sorbonne Université, c'est aussi que les femmes sont empêchées parce que, par exemple, l'arrêt pour les grossesses, eh ben, c'est quelque chose qui est dévalorisant pour la carrière scientifique, qu'il y a du recrutement qui est moins important pour les femmes, comme on dit, en âge de procréer, parce qu'on se dit, voilà, je vais pas lui donner un poste alors qu'elle va nous faire deux enfants dans les trois ans. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et puis, il y a aussi quelque chose que j'intègre parce que ce sont des portraits vivants et qui intègrent aux problématiques, c'est MeToo à l'hôpital. C'est-à-dire aussi le harcèlement, le fait qu'il y a un certain nombre de femmes, ça aussi, ça a été documenté dans l'étude de Sorbonne Université, qui ont arrêté leur carrière en raison du harcèlement. Et là, on n'est pas au 18e ou au 19e siècle. Vous voyez ce que je veux dire? On est en pleine époque contemporaine. Donc, tous ces éléments-là, vous voyez, il n'y a pas que le machisme ambiant.
D'accord.
Il y a aussi la place des femmes dans les sciences. Et c'est un sujet un peu transversal de ce livre.
Il y a officiellement 4% des prix Nobel qui ont été décernés à une femme depuis l'histoire des prix Nobel. Ce qui est quand même, et plus de la moitié, appartenait aux catégories littérature et paix.
Oui, c'est vrai.
Qui étaient perçues comme plus féminins
que le
domaine.
Voilà. Oui, ben c'est ça. C'est un peu, en fait, ça aussi, on revient, par exemple, à Madeleine Bress. C'est des gens à qui on va dire la.
Donc, première femme médecin, docteur en médecine.
Première femme médecin, elle sera barrée pour être pédiatre et gynéco. Et en gros, à cette époque-là, et d'ailleurs, dans le recensement en France, on la considère comme sage-femme, parce qu'il n'y a pas la case pour elle. Et elle va faire de la gynéco et de la pédiatrie sans le titre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est un. Et juste un mot sur Nobel, effectivement, c'est le Graal, comme vous avez dit dans l'introduction, mais Nobel était un personnage complètement différent des Curie, juste pour raconter cette anecdote, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'inventeur de la dynamite, mais il a fait plein d'autres trucs, mais alors lui, c'était un entrepreneur, parce que les Curie, ils ont déposé aucun brevet, elle s'en explique dans l'interview fictive, elle dit, mais nous, il faut une science désintéressée, et nous, on était désintéressés. Nobel, il a déposé 355 brevets, il avait des usines qui tournaient, bon, ce qui a permis finalement de récompenser, mais c'est vrai que dans les sciences, les femmes sont plus barrées que dans des spécialités, comme vous le dites, où on a plus accès à la féminisation, et la féminisation est plus dans la norme.
On continue, bien sûr, juste après la recherche dans la chronique avec Science. Aujourd'hui, Alexandra Delbault s'intéresse à une nouvelle étude qui pointe les effets des perturbateurs endocriniens sur les troubles du comportement chez l'enfant.
Carnet de santé.
Quel est le rôle des perturbateurs endocriniens dans les troubles du neurodéveloppement? Les troubles du neurodéveloppement, c'est un terme très large qui recouvre à la fois des aspects liés à la cognition et au comportement des enfants. Cela inclut par exemple des déficiences intellectuelles, les troubles du spectre autistique ou encore de l'hyperactivité. Ce ne sont pas des pathologies, mais des atypies du développement de l'enfant. Évidemment, ce que l'on cherche, c'est l'origine de ces troubles. Et comme ils sont multiples, leurs causes le sont aussi. Il y a une piste génétique et une piste environnementale qui ne s'exclut pas entre elles, avec notamment l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la vie utérine. Claire Philippa est chercheuse à l'INSERM.
Et ça veut dire qu'ils vont affecter le bon fonctionnement du système hormonal, qui est là aussi un système complexe, impliqué dans un grand nombre de fonctions de l'organisme, dont le développement du cerveau. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux effets potentiels de ces composés-là sur le neurodéveloppement chez l'enfant. Il y a des études précédentes qui montrent déjà que ces composés chimiques sont capables d'agir sur des aspects du système hormonal impliqués dans le neurodéveloppement, notamment la fonction thyroïdienne qui est clé pour le développement du cerveau pendant la grossesse, donc le cerveau de l'enfant. Ces composés, on sait aussi qu'ils sont capables d'affecter les hormones plutôt œstrogéniques, donc féminines, qui sont aussi impliquées dans le développement du système nerveux central. Donc on avait déjà des hypothèses biologiques qui pouvaient indiquer, en tout cas, que ces composés pourraient affecter le neurodéveloppement. Et puis, en plus, certains des composés étudiés dans cette étude sont assez émergents. Donc, pour certains, il y avait peu de littérature. Mais pour d'autres, c'est des composés déjà bien connus. C'est le cas notamment du bisphénol A, qui a été associé dans des études précédentes, à la fois chez l'animal et chez l'homme, a des effets sur le comportement notamment.
Le bisphénol A a longtemps fait partie des produits de la consommation courante. Dans les boîtes de conserve, les canettes, les biberons ou encore l'encre des tickets de caisse par exemple. Depuis, son usage a été restreint parce que c'est un perturbateur endocrinien avéré et qu'il est suspecté d'être lié à des troubles du neurodéveloppement. D'autres substances pourraient-elles avoir le même effet? C'est ce qu'a voulu explorer cette nouvelle étude parue dans le Lancet Planetary Health en suivant l'exposition de femmes pendant pendant leur grossesse. Ce n'est pas la première étude du genre, mais il faut souligner qu'il est particulièrement difficile de mettre en évidence des effets de substances du quotidien qui se révéleraient plus tard. C'est un défi à la fois méthodologique et statistique, car la prévalence de ces troubles dans la population générale reste faible. Ici, l'étude a trois particularités. La première, c'est d'inclure plus de 1000 femmes enceintes entre la France et l'Espagne, ce qui est déjà beaucoup. La seconde, c'est d'avoir demandé aux femmes enceintes de fournir entre 21 et 42 échantillons d'urine, alors que c'était entre 1 et 3 dans les études précédentes. On a donc là une vision bien plus réaliste de l'exposition à ces substances, mais le cœur de l'étude, c'est de comparer l'exposition de 12 molécules particulières à des atypies de l'enfant entre 1 an et demi et 2 ans, c'est-à-dire des comportements. Là, on ne parle pas de diagnostic de troubles neurodéveloppementaux, mais de traits qui servent à leur dépistage précoce. Les parents ont rempli un questionnaire pour évaluer si leur enfant était agité, se bagarrait beaucoup ou s'il avait souvent peur. Cela permet de révéler de l'anxiété, des difficultés relationnelles et ou des déficits de l'attention. Résultat, deux composés sont associés à ces troubles du comportement, le méthylparabène et le bisphénol S.
Le méthylparabène, comme son nom l'indique, c'est un composé qui appartient à la famille des parabènes, utilisé comme conservateur, notamment dans les produits de soins, les cosmétiques et l'alimentation. Et l'autre composé, qui est le bisphénol S, qu'on peut qualifier un petit peu de composé émergent, et il est aujourd'hui classé comme perturbateur endocrinien. Et donc ça met un petit peu en exergue une des limites de la réglementation actuelle qui se focalise vraiment par substance et non pas par famille de substances. Et notamment là, on est dans une situation où on a remplacé le bisphénol A par une substance ayant une structure très similaire. Et il y a de plus en plus d'études scientifiques qui mettent en évidence des effets pour ce bisphénol S utilisé en remplacement.
Cela souligne finalement que la réglementation a toujours un train de retard. Le bisphénol S semble avoir des effets semblables au bisphénol A, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'il a une structure très proche. Pourtant, il n'est soumis à aucune restriction. L'étude va se poursuivre avec les mêmes questionnaires à 4 et 8 ans pour voir si ces associations se maintiennent lorsque les enfants grandissent. Et surtout, un projet encore plus grand et ambitieux est en préparation pour explorer plus finement les liens entre perturbateurs endocriniens et neurodéveloppement, mais aussi des pathologies infantiles comme les malformations cardiaques ou certains cancers pédiatriques. Elle inclura cette fois 100 000 femmes enceintes en France et démarra en 2027.
Gilles Pialou, votre livre donc passionnant, Admiration, 7 héros de la médecine qui vient de paraître chez Perrin. 7 héros de la médecine, comment vous les avez choisis ?
Complètement subjectivement. Non, en fait, il y en a une qui commence, il y a une locomotive, c'est Madeleine Bresse, parce que j'ai passé toutes les cellules de crise du Covid, et on en avait parfois 7 par semaine, en parlant d'une salle Madeleine Bresse qui est à côté de mon service. Est-ce qu'on l'a remplie, machin, c'est ce que je raconte. Et je me suis dit, mais attends, il faut quand même que je sache qui est Madeleine Bresse. Et après, en retrouvant son histoire, je l'ai trouvé tellement magnifique. Et après, j'ai cherché des personnages. Un jour, je suis allé à une dédicace d'un livre qui a existé sur Zénon de Rocky. Zénon de Rocky, vous mettez dans les réseaux, dans les moteurs de recherche, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Alors, Marie Curie, il y a 60 biographies, mais Zénon de Rocky, il n'y a rien sur ChatGPT. Donc, je voulais des personnages qui soient apolémiques, qui ont des parcours incroyables, plutôt méconnus à part Marie Curie. Et puis, c'est une rencontre entre trois choses. C'est mon éditeur, Benoît Hivert, qui disait, il y a un constat que je partageais totalement, c'est que la science est devenue défiance depuis le sang contaminé, le lévothyrox, le Covid... qui a fait énormément de mal.
Là, c'est les mettre en avant, vraiment.
Ah oui, 17% des 18-24 ans considèrent que la science fait plus de mal que de bien. Donc, en gros, les Français aiment bien leurs médecins, ils se méfient de la science. Moi, ce que j'ai voulu, c'est redonner de la brillance à la science et surtout permettre qu'on puisse les toucher, je sais pas comment vous les expliquer, pas les mettre sur des piédestals. Sur un piédestal, c'est même Marie Curie, elle est très humaine, alors que ces personnages sont plutôt soit inconnus, soit une image un peu figée dans un moule qui donne pas envie d'embrasser leur vie.
Et ben, je recommande vivement la lecture de ce livre passionnant, Gilles Pialou. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup
de l'invitation. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Julien Moulet qui l'a réalisée et mise en onde. France Culture.